temps de ce dimanche, il sera changeant avec les dernières averses. L'après-midi, de belles éclaircies attendues. Et puis côté température, jusqu'à 17 degrés à Valorbe, 20 au meilleur de la journée à Yverdon-les-Bains et Montreux, 21 à Lausanne, 23 attendus à Genève.
LFM, bonne journée, il est 11h.
LFM, la radio qu'on aime.
Au rendez-vous de Double Face cette semaine, une actrice humoriste romande connue et reconnue. Bonjour Brigitte Rosset.
Mais bonjour Valérie.
Cela fait plus de 30 ans que vous sillonnez les scènes d'ici et d'ailleurs. Après avoir suivi les cours de l'École supérieure d'art dramatique de Genève, là on est de 1990 à 1993, vous aviez alors 20 ans.
Oui, de 20 à 23 pour être très précise.
Alors on va revenir sur votre parcours Brigitte Rosset, les prix, les récompenses que vous avez décrochées, vos différents spectacles, notamment Merci pour le couteau à poisson, Les conversations et Les délices au jambon. Ça c'est le spectacle que vous jouerez, à Morge Sourire, ce sera le mardi. Mais avant tout ça, on remonte le fil du temps, à quand remonte Brigitte Rosset votre goût pour le spectacle? Est-ce qu'on peut même parler de passion?
Ben, en fait, je fouille un peu ça dans le dernier seul en scène, là, Merci pour les couteaux et compagnie. Il y a eu, je sais pas quels sont, je pense qu'il y a eu plusieurs petits déclencheurs dans l'enfance. J'ai eu un grand-papa merveilleux qui m'emmenait à l'opéra, puis je sais que je trouvais ce monde assez fascinant. Mais de là à m'imaginer que ça suscitait des vocations, mais en même temps, le monde du spectacle me fascinait, que ma mère m'emmenait beaucoup au théâtre, mais c'est vrai que dans la famille, il n'y avait pas de comédien. Mon grand-papa était médecin, mon autre grand-papa était jardinier. On faisait du théâtre en amateur au collège, ou comme ça, ma mère, mon père, on fait ça. Mais mes frères et sœurs, je suis la dernière de 4 enfants. Bah, disons, c'était pas un métier. C'était un truc qu'on. C'était super, on allait voir ça, mais enfin, je ne l'ai jamais imaginé comme un métier. Et puis après, il y a eu. J'ai donc jamais fait de cours comme petite fille dans un atelier théâtre ou je sais pas quoi. Non, j'ai fait.
Le spectacle de fin d'année à la limite.
Voilà, exact. Et encore, j'ai fait de la rythmique où je supportais pas parce qu'on me pinçait les fesses avec mon juste au corps bleu pétrole. Vous savez, on avait ces petits juste au corps un peu acryliques. Puis avec des petits bouts de fesses, ces cuisses qui dépassaient. Puis les garçons nous pinçaient les fesses. Et ça me terrorisait. Et. Voilà, pas de cours de théâtre, de machin. Puis après, à l'adolescence, juste après le... Genève, c'est le cycle d'orientation, donc c'est l'école obligatoire qui finit à 15 ans. Juste après ça, moi, j'ai continué à faire une matu gymnasiale, mais pas au collège. À l'école de commerce, ça s'appelait à l'époque école de commerce. On pouvait faire une matu commerciale. Maintenant, elle est, je crois, professionnelle, mais c'était une matu collège, enfin, gymnasiale, mais à plein temps. Et là, j'ai rencontré une équipe de super... avec qui on a eu envie de faire des sketchs, de monter des spectacles, etc. Et il y avait, pour vous citer, il y avait Julian Nicolquet, qui est maintenant réalisateur à la RTS, qui faisait le foufou avec nous, qui en plus était dans un vidéoclub, parce qu'il faut vous parler d'un temps que les moins de 20 ans, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet.
Mais il y avait beaucoup de VHS s'occuper le week-end.
Ouais, puis il y avait les grosses caméras, et Julian nous filmait, on faisait des sketchs, on les retransmettait dans des grandes télévisions, dans les couloirs de l'école, on faisait des fausses pubs. C'était l'époque des nuls, des inconnus, cette mouvance de on se déguise, on fait des sketchs. Donc on a beaucoup fait ça. Il y avait Julian Nicolquet, il y avait Gaspard Beuch, qui est maintenant aussi comédien, qui est devenu le papa de mes enfants et mon ex-mari. ça veut dire qu'entre-temps, il est devenu mon mari aussi. Il y avait un gars super qui s'appelle Thomas Joannet, qui était le mari de Alexandra Lamy, qui est devenu. Qui s'est fait planter pour du jardin. Mais Joannet est un super comédien qu'on voit dans pas mal de séries télé. Il y avait Emmanuel Dabous et d'autres qui n'ont peut-être pas continué. Mais bref, on était une équipe comme ça. On s'est retrouvés, Laurent Nicolet aussi, on s'est retrouvés un peu par hasard tous ensemble avec cette passion commune. Ça a eu une émulsion les uns les autres. Le premier spectacle qu'on a monté, c'était Don Juan revu et saboté, le vrai spectacle. Donc on est parti du Don Juan de Molière en racontant plein d'histoires autour de ce Don Juan, l'adaptant à la société d'étudiants. Enfin,
un petit peu féministe déjà,
ouais,
à la base.
Ouais. Mais encore là, à l'école de com, quand on est avec les copains, je me dis pas que je vais en faire mon métier. Je me dis, on s'amuse beaucoup. C'est super. Voilà. Et puis je me dis bon, bah au fond, moi j'ai fait l'école de com. Je vais plutôt aller en lettres à l'Uni. Et puis voilà, en disant je continue mes études, c'est super. J'ai fait l'école de com, j'ai fait plein de copains. Et puis ça a un peu débordé parce qu'avec les copains, on a ouvert des cafés théâtres à Genève. On avait ouvert un lieu qui s'appelait le Moulin à Poivre, en référence à un lieu qui avait été ouvert par Bernard Allaire et ses copains dans les années 50, je crois. C'était dans le quartier de la Terrassière à Genève. On en avait ouvert un deuxième dans les sous-sols de la brasserie Landolt. On faisait nos sketchs dans ces... Donc c'était déjà les comédie clubs en fait, mais on faisait pas du stand-up. Nous, notre plaisir, c'était de se déguiser, de faire des sketchs, puis entre chaque sketch, il y avait une petite musique, le temps qu'on se change, puis après on revenait, puis il y avait un piano, puis
c'était en groupe.
Ouais, c'était une troupe, mais c'était vraiment dans l'esprit, je pense. On était très impressionnés par le Splendide, qui était déjà le Splendide, enfin, qui avait déjà explosé, parce qu'à l'époque, c'était une troupe de copains. Voilà, on faisait ça... Un peu en dehors de l'école, on tendait le chapeau. Le restaurateur disait bah, « je vous fous la file à manger ». Puis nous, on faisait un chapeau à la fin du spectacle. Voilà. Et puis,
Brigitte Rosset se dit qu'elle pourrait peut-être faire des études de théâtre, de comédie. Mais ça, c'est une autre histoire qu'elle nous racontera dans quelques minutes.
LFM.
Bonne journée.
I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner outside of town. Left the phone a little bit, but it's cool for now. Far from perfect. good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Vos billets pour le Venoge Festival. Seulement, il va falloir les chercher. Les billets seront cachés quelque part dans le canton. Chaque jour, écoutez LFM, les animateurs vous donneront des indices. Et petit conseil, abonnez-vous à la page Instagram de la radio, ça pourrait vous aider à être le premier. La chasse aux billets pour le Venoge Festival, c'est la semaine prochaine. Que le meilleur gagne.
Détendez-vous sur le fabuleux rooftop du Yotel Geneva Lake.
Profitez d'une vue imprenable sur le lac et les Alpes, de cocktails rafraîchissants, accompagnés de savoureux snacking. Le Yotel Geneva Lake, également hôtel, restaurant, à la sortie Copet de l'autoroute entre Genève et Lausanne.
L'Europe en édition illimitée avec BliBlablo. Profitez de données illimitées en Suisse et en Europe pour 38 au lieu de 58 francs par mois. Plus d'infos sur sil-bliblablo.ch. BliBlablo, le multimédia d'ici.
Share.
Pierre Rugier.
Brigitte Rosset est l'invitée de Double Face ce dimanche jusqu'à midi. Elle sera à l'affiche de Manche Sourire mardi. Mais là, ici, maintenant, on remonte le temps pour savoir quand, comment cette envie d'apprendre le théâtre a commencé. On est alors dans les années 90.
Là, je me suis dit, bon, je vais quand même prendre des cours de théâtre parce que j'aime bien ça. Et qu'au fond, j'ai jamais pris de cours, je sais pas. Je fais ça instinctivement, mais est-ce que je pourrais faire ça un peu mieux peut-être? Ou est-ce que vraiment j'ai quelque chose à faire là-dedans? Et puis, je me suis inscrite aux classes préparatoires du conservatoire à Genève qui préparait aux grandes écoles, c'est-à-dire à s'inscrire à plein temps au conservatoire. Donc moi, je faisais ça un peu genre le mercredi, après les cours, entre l'uni, et puis j'avais des petits boulots pour gagner ma vie. Et je tombe dans la classe de Monsieur Georges Vaude, qui à l'époque dirigeait le théâtre de Carouge. Et puis, au bout du deuxième cours, il me dit « Voilà, écoutez, il y a une comédienne qui s'est blessée. Est-ce que vous seriez d'accord de la remplacer? On part en tournée en Russie, jouer Henri IV de Monique Lachère, qui était son épouse, qui était une pièce historique sur le Henri IV français, le père galant. » Moi, je dis « Bah oui, bien sûr. » Et donc, on part en Russie, c'était 2 mois de contrat. Et il me dit « Voilà, ça fera 4500 francs. » Puis je fais « Ah !» Puis il me dit « C'est pas assez. » Si, c'était par mois. Moi, je pensais que c'était pour 2 mois. Donc, tout d'un coup, je gagnais plus que ce que j'avais jamais gagné en faisant des boulots de vendeuse, de trucs à gauche, à droite.
Et là, on est en 92. Hein.
Là, on est en 92.
Ouais.
Et j'ai 22 ans. Et je pars en Russie avec... On était, je sais pas... 25 comédiens, les décors qui partent sur des camions, puis des bateaux qui partent 3 mois avant, 2 mois avant, je sais pas. Enfin, et puis dans un énorme théâtre à Moscou, puis après à Saint-Pétersbourg.
Une tournée internationale,
ouais,
pour débuter.
On se dit, mais ça n'existe pas, en fait. Alors, effectivement, c'était quand même assez exceptionnel, même si c'était en 92. Et du coup, ça remet en question l'Uni. Je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer les lettres? Surtout que ça s'était bien passé avec Georges Vaude, qui me proposait d'autres rôles, de rester dans ce théâtre. J'avais la pression d'apprendre mon métier, mais de l'apprendre pour de vrai, puisque je jouais devant des gens, j'étais payée, j'étais avec des comédiens plus âgés que j'admirais tellement, qui étaient incroyables, qui avaient des voix comme ça, d'hommes et de femmes. Et voilà. Et donc, puis après, tout s'enchaîne. Et j'ai, en fait, continué un peu comme ça à suivre des cours, parce que je continue à aller aux cours juste de Georges Vaude. Et puis, puis après, j'ai jamais vraiment fait d'école professionnelle. J'ai arrêté mon uni à l'admi, ça s'appelait les licences à l'époque, l'admi-licence. Enfin, au bout de 2 ans, j'avais un papier de linguistique qui me sert pas à grand chose, mais j'ai bien aimé. Et voilà. Et après, j'ai toujours eu tellement de bol. Tellement de bol. J'ai rencontré des gens super. J'ai vraiment... chaque fois que je me disais, c'est la cata, je vais pas avoir de boulot, il y avait un truc qui arrivait. Alors aussi, j'ai créé mes propres projets, mais c'est aussi des engagements. Je parle beaucoup.
Là, pour tout dire, si je ne vous fixe pas, c'est que j'essaye de relancer la clim. Donc là, vous faites du théâtre classique, mais vous écrivez après. Le comique arrive quand? L'humour arrive quand?
Ben, en parallèle. C'était toujours en parallèle. C'est que dans les cafés-théâtres, la Moulin à Poivre, on faisait quand même des petits sketchs drôles. Et puis le théâtre classique avec Georges Vaude. Et ce qui a été décisif, c'est la rencontre avec Philippe Cohen, qui à l'époque tournait avec un spectacle merveilleux qui s'appelait, d'ailleurs je crois qu'il l'a repris encore, le Cid improvisé, où il partait du Cid de Corneille. Il arrive avec quelque chose de tellement nouveau dans la manière de s'adresser aux gens, dans la manière d'improviser sur scène. À un moment donné, on a eu envie de faire des spectacles ensemble. Et comme nous, avec, je dis nous parce qu'il y avait, je parle pas de moi, nous, je sais qu'il y avait aussi Gaspard Bush, et que Gaspard et moi, on était au théâtre de Carouge, et Philippe Cohen nous a proposé de créer notre propre troupe, de louer une salle et de faire une saison avec 5 spectacles d'humour, parce qu'il n'y avait pas de théâtre d'humour à Genève, pas de salle qui programmait de l'humour. Et on a créé la fameuse compagnie Confiture. Alors, eux ont continué Confiture. Moi, j'ai quitté ça, je crois, en 2000, je ne sais plus exactement quand, bref. Et puis, on a fait une première saison avec un spectacle qui s'appelait « Elle a épousé un rappeur », où il y avait Gaspard Bush, Anthony Mettler, moi, Sarah Barberis et Philippe Cohen, écrit par Philippe Cohen. Et puis, on avait fait encore un spectacle des Degrés de Poule. Et ça, c'était un trio de café-théâtre. Et on parle de Morge-Sourire ce soir. Et notre premier gros engagement avec les Degrés de Poule, c'était Morge-Sourire. C'était Jean-Marc Despons qui nous avait engagés pour jouer aux Trois Petits Tours à Lausanne. Et pour nous, on jouait aux Trois Petits Tours à Morge, pardon. Parce qu'à l'époque, il y avait Beau Sobre, mais les petites compagnies jouaient aux Trois Petits Tours, qui était une salle au bord du lac à Morge. Je ne crois pas qu'elle existe encore. Et Jean-Marc Despons était venu nous voir au Bleu Lézard à Lausanne. C'était une de nos premières représentations. Ils étaient, je crois, 5 ou 6 dans la salle, dont Jean-Marc Despons, qui avait dit « Vous êtes super, je vous engage ». Et on avait fait Morge-Sourire. Et pour nous, Morge-Sourire, c'était... Ouais, on avait tout réussi, quoi. On pouvait faire Morge-Sourire. On était sur l'affiche avec d'autres grandes têtes d'affiche qui ne jouaient pas avec nous aux Trois Petits Tours. Et avec nous aux Trois Petits Tours, il y avait les Épinoirs. Il y avait Collier de Nouilles. C'était aussi deux... Je ne sais plus leur nom, mais ils étaient super. Les Degrés de Poule qui étaient nous et... Les Épinoirs. Je me souviens que l'affiche, c'était très drôle d'avoir ces trois noms complètement biscornus sur une affiche.
Et dans quelques instants, Brigitte Rosset, on parlera de votre premier seul en scène avec aussi la participation donc de Philippe Cohen.
LFM, on adore les plus belles chansons d'hier et d'aujourd'hui.
Last November, I fell in love. Just a teen and too naive to give it up. Wish I'd known better to call that bluff. All those guilty eyes and reckless lies I trust. So all I ask is, will you be there through the good and bad? Be someone that's true, something that lasts. What if my world starts falling apart? What if my fears take over my heart? Would you still love me in all of my scars? Or would you leave me alone in the dark? Cause I don't wanna fall, I don't wanna fall if you're in too much. This September, we called it off. And for a while I lost a piece of who I was. But since you're asking, I'm ready now. Only if you promise that you'll stay around. What if my world starts falling apart? What if my fears take over my heart? Would you still love me in all of my scars? Or would you leave me alone in the dark? Cause I don't wanna fall, I don't wanna fall if you're in too much. If you're in too much, I don't wanna fall, I don't wanna fall if it don't feel.
Valérie Ogier.
Entre souvenirs, confidences et projets, c'est Brigitte Rosset, l'invitée de Double Face ce dimanche. Alors, on évoquait tout à l'heure Philippe Cohen et justement, votre premier seul en scène, Brigitte Rosset, vous le faites avec Philippe Cohen.
C'est Philippe, je lui disais, ah, mais ça doit être tellement dingue de monter sur scène tout seul et de faire un truc. Il m'a dit, mais tu veux faire ça? Je dis, je sais pas. Ouais, j'aimerais bien, tu m'aides. Il m'a dit, mais bien sûr, je fais ça avec toi. Et il avait écrit, il m'avait mis en scène, il m'avait appris comment passer d'un personnage à l'autre, parce qu'il mettait aussi en scène François Sylvan. Et c'est lui qui avait vraiment... Alors, François Sylvan avait déjà fait Madame Pahu et ses premiers spectacles, mais dès le moment où François est passé d'un personnage à l'autre, quand il faisait, par exemple, quand il était à sa maison de retraite, là, qu'il avait dû faire son tige, travaux d'intérêt généraux. Et c'est Philippe qui lui avait, parce que Philippe venait du mime beaucoup, lui avait appris ces espèces de petits gestes qui font qu'on passe d'un personnage à l'autre et que le public reconnaît immédiatement un personnage. Et moi, souvent, on me dit, ah, mais ça me fait penser à François. Et je dis, bah, merci pour le compliment. Et je dois vous dire aussi que ça doit vous faire penser à Philippe Cohen. Et vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aussi grâce à Philippe Cohen que François a trouvé ces choses-là. Alors moi, j'ai travaillé avec Philippe, j'ai pris ces petites choses-là. On a fait ce premier spectacle qui s'appelait Voyage au bout de la noce, où je racontais depuis la demande en mariage jusqu'au mariage. Et puis, j'ai aimé ça. Et après, j'ai continué sans Philippe, mais tout en le remerciant toujours de tout ce qu'il m'avait apporté.
Brigitte Rosset, invitée de Double Fest cette semaine. Alors, ce rendez-vous a un sous-titre, voire une devise. Aller à la rencontre de la personne, parfois dans l'ombre de la personnalité publique. Et alors là, comment vous dire que ça tombe assez bien et que ça rejoint votre actualité, puisque le spectacle que vous allez jouer à Morges Sourire, qui est donc Merci pour le couteau à poisson, les conversations et les délices au jambon, tout ça c'est le titre. Ce spectacle, eh bien, vous vous racontez à l'intérieur, vous racontez vos souvenirs d'enfance. C'est une décision mûrement réfléchie, maintenant qu'on vous connaît de plus en plus. Ou alors c'est un élan où vous vous êtes dit, c'est maintenant comme un besoin de vous raconter.
Alors, je me suis toujours assez racontée, mais c'est-à-dire que je disais mon premier spectacle, je raconte le mariage, alors c'était pas tout à fait exactement le mien, mais voilà. Après, j'ai raconté mes accouchements, mon divorce, tout ça, c'était très très proche de la réalité. Mon pétage de plomb quand je me suis retrouvée à la clinique des Lucioles dans Smarties, Kleenex et Canada Dry. J'ai raconté que je suis partie faire un jeûne, qui était moins intime, pas me faire un jeûne, qui était un peu moins intimiste, peut-être dans cuisine intérieure. Et là, en fait, le démarrage de ce projet, c'est marrant parce que juste avant le Covid, ma mère est décédée en janvier 2020. Et ça n'a pas été le déclencheur d'un spectacle, mais plutôt de vider l'appartement. Quand il y a un décès, on vide l'appartement. Évidemment, on retrouve des photos, des archives, des choses. Et puis, des films Super 8. Et le déclencheur, c'est que j'ai retrouvé un bouquin de chronique de mon grand-père maternel qui écrivait des chroniques dans le Journal de Genève et la Gazette de Lausanne, donc ça date pas d'hier, et qui était lui professeur de médecine, mais à la retraite il écrivait ses chroniques et il signait Le Vieil Homme. Il parlait de son métier de médecin, de la retraite, des petits-enfants, de plein de choses. Et comme moi j'écris des chroniques dans Génération, qui est un journal pour les 50 ans et plus, je me dis, ah, mais c'est quand même marrant. J'avais envie au tout départ, simplement, de voir comment j'arrivais à peut-être rééditer les chroniques de mon grand-père et voir comment je pouvais lui répondre. Qu'est-ce qui avait vieilli et qu'est-ce qui n'avait pas vieilli. Bref, tout ça. Et puis, j'avais fait comme boutade à la radio en disant, bah, puisque les théâtres ferment, Covid oblige, j'avais dit, bah, j'irai écrire dans les musées. Et la responsable de communication du MH m'avait tendu la perche en disant, bah, écoutez, venez. Et elle m'avait installé une petite table dans une des salles du musée en me disant, si vous voulez écrire là, écrivez. Et en plus, il y a eu tout un coup un appel d'un monsieur qui s'appelle Fabrice Melchiot, qui est auteur de théâtre, qui a dirigé le théâtre Amstramgram, qui faisait un stage d'écriture de monologue à Évora au Portugal. J'aime apprendre, donc je me suis dit, je suis curieuse, je m'inscris, je suis allée là-bas.
Donc après 30 ans de parcours et diverses expériences, Brigitte Rosset s'inscrit à un stage de monologue.
Ouais, on a tous des choses à apprendre tout le temps. Et alors ça, c'est un des trucs que m'ont donné mes deux grands-pères. Mon autre grand-père qui était jardinier, il me disait, il faut tout le temps apprendre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça permet de rester vivant, de continuer à développer son cerveau. Et puis, j'ai vu qu'en fait, un monologue, c'est rien d'autre que ce que je faisais déjà. En fait, je fais déjà des monologues. Mais il y a des techniques que je connaissais pas. Et après, de nouveau, quand je vous dis que j'ai toujours tellement de chance et que j'ai des rencontres, c'est que Anne Schwaller, qui est la directrice du Théâtre des Os à Fribourg, qui est un joli lieu merveilleux de création, me dit, écoute Brigitte, je me présente à la direction de ce théâtre, je dois faire un dossier, est-ce que tu es d'accord que je te mette comme artiste dans mon dossier, parce que j'ai envie de faire une saison autour des femmes qui créent, etc. Je lui dis, mais évidemment Anne, bien sûr. Il se trouve qu'elle a eu le poste et elle m'a proposé de faire la création de ce spectacle au Théâtre des Os, ce que j'ai fait en février de cette année. J'ai pu répéter 6 semaines sur place, c'était avec une équipe extraordinaire. Christian Chat à la mise en scène, Émile de Gothard qui a créé la lumière, Olivier Gabu, je les cite vite, pour la musique parce qu'ils sont formidables, Anne-Laure Futin, Cédric Mattet à la scénographie. On a pu jouer 3 semaines sur place et puis le spectacle partait en tournée. Et ce qui était génial, c'était que, au fond, dans ce spectacle, je crois qu'en décibels, les gens rient autant que les précédents spectacles, mais qu'en plus, souvent, ils viennent me dire qu'ils sont émus. Et je trouve ça super, parce que pour moi, les larmes de bonheur et le rire sont quand même très cousins. Et puis, quand ils peuvent arriver l'un avec l'autre dans une même heure et quart et demie, c'est assez merveilleux.
On va en parler du milieu du spectacle. Brigitte Rosset, comédienne, humoriste. Et depuis plus de 30 ans, autant dire que vous en avez vu des choses, vous avez vu ce métier évoluer. Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous depuis 3 décennies?
Alors, au niveau de l'humour, on est de plus en plus nombreux, ce qui est une bonne chose. Parce qu'il y a eu un développement du stand-up, des comédie-clubs, d'une possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'on a à dire, comme l'humour reste un reflet de la société. Moi, quand on a commencé, on parlait des degrés de poule, ces choses-là. Il y avait nous, on était un peu les petits jeunes, ceux qui étaient dans le circuit, c'était les chasseurs en exil, Cuchet Barbeza, Pierre Miseret, Philippe Cohen, Boulimie, les cabarets chaussettes à Fribourg. Ils étaient peu, donc il y avait peu de représentation de tout ce qu'il y avait à dire, mais il y avait peut-être moins à dire, ou alors on avait moins envie de le dire, ou on n'en parlait pas. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que le stand-up a pris un peu le pas du, je dirais, du rap dans les années 80. Il n'y a pas eu de formation de rappeur, il n'y a pas eu de formation de trucs, mais comme il n'y a pas de formation d'humoriste, et on y travaille à l'Union Romande des Humoristes, parce que c'est une fêtière des humoristes que je préside, et qu'on a créé il y a 4 ans, pour dire ça manque peut-être, enfin, pas parce qu'ils ne sont pas formés, mais parce qu'il y a besoin d'accompagnement, de professionnalisme, d'outils, encore une fois, partager le savoir. Moi, je suis à fond pour le partage des expériences et du savoir. Et donc, dans l'humour, alors, ce qui est formidable, c'est qu'on est plus nombreux. Ce qui est moins formidable pour eux, c'est que c'est de plus en plus difficile de se faire une place et d'en vivre. Parce que dans les comédie-clubs, c'est génial, parce qu'il y a une effervescence, on va tester les blagues, on vient faire ces spectacles. Mais c'est difficilement rentable pour les humoristes.
D'autant s'ils sont de plus en plus nombreux, il faut partager le gâteau.
Et après, l'envie, c'est d'aller quand même vendre le spectacle, une fois que le spectacle est rodé, de le vendre dans les théâtres. Et un théâtre, bah, il programme un certain nombre d'artistes, puis quand il a le choix entre 10, bah, on a quand même plus de chances quand ils ont le choix entre 40, 50. Donc c'est difficile, mais on sent aussi que le public est demandeur de l'humour, donc on se bat aussi pour que les théâtres ouvrent, parce qu'il y a des théâtres qui sont moins ouverts à l'humour, qui disent non, mais l'humour, ça reste un art, c'est le nerf de la guerre, mais c'est un art inférieur, on entend encore ça. Voilà, donc ça a changé, il y a beaucoup de monde. Le stand-up a amené un public, et ça c'est aussi génial, jeune, ils sont peu à jouer dans les salles de théâtre programmées, mais il y a un public jeune qui se bouge et qui va voir les spectacles, qui reste pas forcément fan que sur les vidéos d'internet. Bon, moi quand j'ai commencé, j'avais l'impression d'avoir un public jeune, parce qu'il avait mon âge aussi, donc il faut voir aussi l'âge de ceux qui sont sur scène. Mais bref, ce qui est chouette, c'est de voir que les jeunes aiment aller rigoler, aiment aller au théâtre, en tout cas voir des humoristes. Ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est une révolution aussi, parce que nous, on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc, on était, je pense, plus libre aussi de dire des conneries des fois, voilà, de se planter, de pas être tout le temps très fin dans ce qu'on fait. Et je trouve très bien qu'on fasse attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Vraiment. Quand on me dit, oui, mais alors, vous êtes d'accord, on peut plus rien dire. Je dis, non, c'est pas vrai du tout. On peut continuer à rire de tout. Je crois qu'il faut le faire un peu plus intelligemment et faire attention. Quand on disait un truc à la radio, à l'époque, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas d'enregistrement, il n'y avait pas de rediffusion. Donc c'était dit une fois, à moins qu'on ait vraiment, tac, pile poil au bon moment, enregistré le hit parade avec la chanson qui nous plaisait, parce qu'on ne voulait pas acheter le disque, on n'enregistrait pas ce qui se disait. Donc il n'y avait pas de trace, c'était dit, ça pouvait choquer sur le moment, c'était oublié. Maintenant les choses restent, on peut les sortir du contexte, on peut, voilà. Donc tout ça c'est à manier avec grande précaution. D'où l'importance aussi de l'écriture, de savoir ce qu'on dit, de la force de la parole, de qu'est-ce que c'est qu'une parole de... Qu'est-ce que c'est que de dire quand on a un peu de pouvoir, parce qu'on est derrière un micro, sur une scène ou derrière une vidéo. On a un pouvoir, la parole est une arme de destruction massive et je pense qu'il faut la manier avec vraiment grande précaution. Moi ça m'inquiète beaucoup, par exemple l'utilisation de l'humour en entreprise. Ou sous prétexte qu'on fait une bonne blague, et si on rit pas, c'est qu'on n'a pas d'humour. Ou alors on dit une horreur en disant mais c'était de l'humour, mais non, c'est pas de l'humour. L'humour c'est drôle, c'est pas méchant. Ou si c'est méchant, c'est vraiment très très intelligent, parce que ça se retourne. Et puis les méchants, c'est ceux qui ont le pouvoir, c'est pas ceux qui vont faire les cafés ou qui. Bref. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on se pose beaucoup plus de questions par rapport à l'humour, et c'est une très bonne chose.
Couch making ice from a get you off. Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know, forgot. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya.
Brigitte Rosset, l'invitée de Double Face ce dimanche jusqu'à midi. Et justement, à vous entendre parler avec enthousiasme de ce parcours, Brigitte Rosset, de cette création sans cesse renouvelée. Si vous n'aviez pas été actrice et humoriste, vous auriez fait quoi?
Moi, j'étais très attirée par la photo. D'ailleurs, je continue à faire régulièrement des photos pour moi. Hein. Enfin, je les mets sur Insta, dans un autre compte, mais j'aime bien la photo. Et au fond... Ben, ce que je fais, c'est pas si éloigné. Parce que quand on croque des personnages, on fait des instantanés, comme ça, de moments. C'est l'observation. Je pense que j'aime dans la photo, c'est tout un coup me dire, ben, tiens, si je fais ce cadrage-là, je rends ce détail-là intéressant, alors qu'il ne l'est pas forcément pour tout le monde, parce qu'on peut passer devant. J'aime pas les grandes photos d'un très beau grand paysage. C'est plutôt un petit détail de quelque chose que j'ai envie de croquer. Donc, la photo. Et puis le jardin, moi ça me fascine. J'aurais bien peut-être suivi les traces de grand-papa et d'avoir. Je sais pas si j'ai la main verte, mais je suis assez fascinée par. Je sais pas, peut-être le paysagisme ou fleuriste, voilà. D'avoir un magasin de fleurs, ça me bon, c'est très dur, mais ça m'aurait plu. Ouais, quelque chose en. Peut-être la biologie, je sais pas. Ben, il se trouve que j'ai fait ça. Et que ça a marché. En tout cas, que j'ai pu nourrir mes trois enfants pendant, avec leur papa aussi hein, à l'époque, mais ouais, en tout cas je suis assez contente d'avoir fait ça, et d'être encore là, je crois que c'est chouette.
Vous avez eu peur que ça s'arrête?
Ah, tout le temps, mais pas
encore
sans...
maintenant.
Ah oui, et puis sans paranoïa du tout, je sais que ça peut s'arrêter, évidemment, ça passe tellement vite. Vous savez, on fait un nouveau spectacle, on n'en fait pas un. Après, les directeurs des théâtres changent. Moi, les gens avec qui j'ai commencé, ils arrivent quand même gentiment au bout parce qu'ils étaient un peu plus âgés que moi. Moi, j'ai 55 ans. Donc, les gens qui suivaient votre travail, ben voilà, ils sont petit à petit plus là, aux places de directeur. Il faut créer des nouveaux liens avec les nouvelles personnes. Je travaillais pas mal au théâtre de Carouge à Genève, et, sous la direction Jean Lhermier. Il a annoncé qu'il quittait le théâtre de Carouge, il sera remplacé. Voilà, après les gens arrivent avec d'autres équipes. Donc évidemment que ça peut s'arrêter. Des deux, c'est-à-dire moi je peux continuer à produire quelque chose qui peut-être n'intéressera pas les directions des théâtres aussi parce qu'il y a beaucoup de gens, qu'il y a des nouveautés, qu'il y a... Après le public, oui, les gens qui m'aiment bien, ils ne vont pas arrêter de m'aimer, c'est pas ça dont j'ai peur, mais c'est que bah, les choses tournent et puis il faut... Enfin, chacun sa place. Nous, on a peut-être pris la place de certaines personnes quand on est arrivé. Puis après, les gens s'en vont. Puis... Mais c'est plus une... Là, franchement, c'est pas une peur. C'est pas une peur, c'est une réalité. Donc j'ai pas peur parce que je sais. En fait, je sais que ça va arriver. Et il faudra juste se carapater avant d'être complètement à la ramasse ou has-been ou pas là. C'est pour ça que par exemple, bah voilà, j'ai reçu ce prix cette année, prix Humour 2025. Ça reste un prix, c'est rien. Mais pour l'ego, c'est super. Puis de se dire, bon, bah, y a un certain nombre de personnes qui ont imaginé que j'avais encore... C'est pas un hommage, c'est pas un prix pour dire récompenser une carrière. Enfin, j'espère que c'est pas celui-là qu'on vous donne en vous disant, bon, maintenant tu peux y aller. C'était super tout ce que t'as fait. Mais je sais très bien que ça va arriver et c'est pas triste du tout. Je crois qu'on fait ce qu'on a à faire. Puis après, si ça se fait plus, c'est toujours une rencontre entre et les gens qui ont envie de programmer, et le public, et l'artiste. Puis des fois, ça se fait pas. Puis voilà, ça s'arrête. Puis c'est pas grave.
LFM. LFM. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do.
Au 14 juin avec une superbe programmation suisse et internationale dont le légendaire bluesman C6 Steve et l'icône du rock Bryan Adams pour un show unique en Suisse romande. N'attends pas, les billets s'envolent. Plus d'infos, sierblues.ch.
Offrez-vous une pause gourmande à la fleur de sel. Havre de paix et de saveur, au cœur du vieux bourg de Cossonay à côté de Lausanne. Délices du midi des 19 francs, gastronomie raffinée le soir des 68 francs. Notez 17 sur 20 au Goemio, terrasse ouverte pour les beaux jours. Lafleurdecel.ch.
LFM, côté musique, on écoute maintenant les plus belles chansons d'hier et d'aujourd'hui.
to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go?
Valérie Ogier.
On arrive au terme de cette rencontre, c'est l'exercice du tac au tac.
Tac au tac, allons-y.
Le talon inutile que vous avez, Brigitte Rosset.
Les bouquets de fleurs.
Vous savez faire des bouquets de fleurs.
J'adore faire des avec des petites fleurs du jardin et tout ça. Je les trouve sublimes, mais ça sert absolument à rien. Bon, si, c'est un peu dommage de couper les fleurs, mais comme ça, je me les... Voilà, je sais pas, c'est peut-être inutile, mais j'en ai d'autres sûrement. Hein. Qu'est-ce que j'aurais comme talon inutile? Je sais pas... Non, est-ce qu'un talent peut être inutile? Voilà, je sais
c'est,
pas.
C'est l'autre option, si vous voulez ouais. répondre à la question, c'est vrai. Et vous la soufflez donc aux prochains qui arriveront dans Double Fesse. Le meilleur conseil que l'on vous ait donné, Brigitte Rosset?
Reste toi-même.
Et il faut une certaine confiance en soi pour l'accepter.
Ben, ça peut donner confiance en soi qu'on vous le dise. Ça veut dire que toi-même a une valeur. Mais chez nous, c'était aussi à la maison, les protestants, reste toi-même, ça veut aussi dire ne pète pas plus haut que ton cul. Ça veut dire aussi reste à ta place. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais reste toi-même. Ça... Et puis c'est une espèce de quête de toute la vie, en fait, de rester soi-même. C'est-à-dire de qui on est soi-même. Et puis, suivant avec qui on est. Ouais, c'est ça. Reste toi-même, c'est bien.
Votre duo de rêve, ce serait avec qui?
Je les ai déjà fait. C'était avec Rock Rosio et avec Donny Monet. Et avec mon copain Christian Scheidt. Donc tous mes duos de rêve, je les ai faits. C'est le prochain, mon duo de rêve. Parce que je suis sûre qu'il y a tout d'un coup quelqu'un ou quelqu'un avec qui je vais me dire mais évidemment qu'il faut que je fasse un duo de rêve avec cette personne-là. Donc c'est le prochain.
Et quelle est la chose la plus drôle que vous ayez lue sur vous?
Ah, c'est, ça m'a fait beaucoup rire. C'était il y a très longtemps. Je faisais une émission qui s'appelait Ça cartonne. C'était Olivier Delalloy qui présentait ça. Et moi, je faisais un espèce de chef de plateau. J'étais habillée tout en blanc. Et puis, je pouvais intervenir quand je voulais dans l'émission, avec mon casque et tout ça, puis dire une bêtise. Je faisais comme si j'étais chef de plateau et dire une bêtise. Et c'était pas toujours très réussi, je dois le dire, mais bref. Et il y a un journaliste de TV Guide qui avait dit, en annonçant un des invités En espérant que l'idiote en salopette blanche ne soit pas là, elle se donne du mal, nous en fait et en a. Et c'était tellement méchant, tellement gros. Se donne du mal, nous en fait et en a. L'idiote en salopette blanche. Bah, par exemple, ça, il n'aurait plus le droit d'écrire aujourd'hui. Mmh. Et ben ça, franchement, ça m'est resté. Et je trouvais ça, je ne sais plus qui l'a écrit. Je n'ai pas retenu le nom de l'auteur ou de l'autrice.
C'est un signe.
Je crois que c'était un homme. Franchement, je crois que c'était un homme. Mais j'ai beaucoup ri. Vraiment, parce que c'était tellement... Je reconnais que ce n'était pas toujours formidable, peut-être, ce que je faisais. Mais c'était tellement... Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? C'était drôle. Voilà.
Les 30 dernières secondes sont à vous, Brigitte Rosset.
Venez à Morges Sourire. C'est un festival extraordinaire. Morges Sourire, c'est l'occasion de découvrir des jeunes humoristes, de boire des caipirinha, d'acheter des petits bijoux, de rigoler, de fêter l'humour. Dans ces différents lieux de Beaussob, ça dure une semaine, je crois. Il y a vraiment un beau programme. Il reste des places pour pratiquement tous les spectacles. Il y en a un ou deux qui sont complets, mais il y a toujours des listes d'attente. Et puis, laissez-vous surprendre. Vous vouliez aller voir tel et tel, il n'y a plus de place. Bah, dites-vous, bah, tiens, allez, je ferme les yeux, j'ouvre le programme, je vais voir ça. Et allez-y les yeux fermés, parce qu'ils font une programmation super et que c'est un beau, beau, beau festival.
Et ouvrez les yeux pour voir Brigitte Rosset recevoir son prix. Oui, c'est la première chose. Et puis, merci pour le couteau à poisson, les conversations et les délices au jambon. Ça, c'est donc votre spectacle, Brigitte Rosset, que vous jouerez à Manche Sourire. Ce sera mardi 19h. Puis on rajoute le site, votre site, pour toutes les infos, brigitterosset.ch.
Et voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous. C'était chouette, ce temps avec vous.
LFM.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs. Qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées. Et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer, bagarrer.
Et qui s'empêchent de pleurer,
de pleurer, de pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie. Tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent, et qui sera le premier. C'est vrai parfois j'ai de la peine, pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles elles saignent aussi. Désolé les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
Bon appétit, il est midi.